Bonsoir à vous qui nous regardez depuis chez vous. La BPI est très heureuse pour cette cinquième nuit de la lecture d'accueillir une rencontre entre Hervé Le Tellier et la journaliste Raphaël Léris sur le thème de l'humour. Je leur laisse la parole.
Merci. Bonsoir à toutes et tous, c'est un plaisir de vous retrouver alors en direct en plus, sans masque, avec Hervé Le Tellier.
Une salle pleine.
spécialiste chevronné et de l'humour et de la littérature, prix Goncourt 2020 comme il ne l'ignore plus désormais pour l'Anomalie publiée chez Gallimard. Depuis 30 ans, monsieur le président de l'Oulipo, vous construisez une œuvre qui met un point d'honneur à ne pas se répéter, mais qui ne cesse de jongler avec les structures, la langue, les références et l'humour. Quelques titres peut-être pour se rendre compte que l'humour, donc, c'est du sérieux chez vous et que ça commence dès la couverture de vos livres. Votre premier livre s'appelait Sonate de Bar, B.A.R., paru chez Segers en 1991. Il y a eu ensuite Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, Joconde jusqu'à 100, Encyclopédia Inutilis, Joconde sur votre indulgence, Guerre et Plaie, La Chapelle Sextine, etc. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais vous demander si vous vous souvenez du moment où vous, comme lecteur, vous avez pris conscience que la littérature, en plus de tout ce qu'elle pouvait vous apporter, pouvait vous faire rire.
En fait, non, je ne me souviens pas du moment précis. Mais je me souviens que parmi les auteurs que je lisais quand j'étais adolescent, il y avait au moins Boris Vian, il y avait au moins Raymond Queneau, et que c'était des auteurs qui n'engendraient pas la mélancolie. Voilà. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait de l'humour chez des classiques, comme on dit, et qui étaient Marcel Proust, qui étaient Flaubert, qui pouvaient être Sterne. Et c'était le genre de choses qui avaient un écho en moi et qui m'intéressaient sans doute beaucoup plus que des textes qui jamais n'étaient en phase avec cette dimension humoristique. Donc je suis toujours assez spontanément allé vers des auteurs qui, sans être pour autant des auteurs comiques, étaient des auteurs qui, dans leur travail et dans leur manière d'être en rapport avec leurs lecteurs, mettaient toujours un point d'honneur à établir une place pour le sourire et pour la distance. La distance, d'ailleurs, étant parfois pas forcément synonyme de sourire, mais il y avait une dimension poétique dans la distance établie entre le lecteur et l'auteur qui m'intéressait. Je pourrais énumérer des auteurs, mais par exemple, Romain Gary, c'était son cas. Enfin, il y avait des livres de Romain Gary qui me faisaient vraiment beaucoup rire. Et c'était parfois un humour extrêmement noir. Et quand j'ai découvert Émile Ajar, dont je ne savais pas encore qu'il était Romain Gary, puisque je fais partie de cette génération qui a lu Ajar de manière naïve, sans voir les affinités qu'il pouvait avoir avec un autre auteur qui était Gary, chez Ajar, je trouvais cet humour permanent extrêmement réjouissant. Et évidemment, plus tard, j'ai vu à quel point c'était le même type d'humour qu'il y avait chez Gary et la manière extrêmement fine qu'ils avaient l'un comme l'autre d'utiliser à la fois la langue et le rapport au réel, qui était quand même extrêmement fort. Voilà, on va peut-être, à l'occasion de cette discussion, citer quelques extraits de textes de différents auteurs dont on va parler, parce que je pense que parler de l'humour comme ça, sans citer d'auteur, ça va être extrêmement froid. Il y a une phrase de Mark Twain qui dit que parler de l'humour et faire une conférence sur l'humour, c'est un petit peu comme disséquer une grenouille. On apprend beaucoup, mais à la fin, la grenouille est morte. Et c'est un petit peu le danger auquel on est confronté, d'autant plus que les rires du public ne sont pas tout à fait là pour souligner le fait qu'on est en distanciel, comme on dit, un mot nouveau, un mot valise.
Alors là, par exemple, est-ce que vous voudriez lire un passage ? Je crois que vous êtes venu avec la moitié de votre bibliothèque et dans votre iPad et dans votre et en physique. Donc, puisque vous disiez qu'il y a l'humour aussi chez les classiques, je crois que vous avez un texte de Proust qui vous fait rire, que
oui.
Vous avez apporté.
Alors, bon, il y a beaucoup de choses drôles chez Proust, et en particulier, évidemment, le rapport que le narrateur entretient avec Françoise. Françoise qui est une des bonnes. Et donc, ça donne ce texte-là. Je l'avais d'ailleurs précédé à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer. Et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement. Je n'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. Peu au courant du langage des bêtes, J'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. « Attendez un peu voir, me dit Françoise, indignée de mon ignorance. Si les lapins ne crient pas autant que les poulets, ils ont même la voix bien plus forte. » Voilà. Donc c'est un des exemples nombreux qu'on peut trouver chez Proust, mais Proust est un livre drôle. C'est quelque chose qu'on entend rarement. Enfin, si maintenant on le dit beaucoup que Proust est drôle, mais lorsque moi j'ai rencontré Proust, jamais quelqu'un m'a dit « Tu vas beaucoup rire ». Et en fait, on rit pas, quand même pas mal, ne serait-ce que parce que c'est un portraitiste et que dans cet art du portrait, comme Françoise, comme Swann, comme Charlus, il a toujours des manières d'aborder ses personnages qui sont à la fois, à la fois c'est cruel et c'est tendre. La tante Léonie aussi bénéficie d'un traitement tout à fait particulier. Je n'ai pas amené d'extrait sur la tante Léonie, mais elle est aussi particulière. Donc oui, il y a ces auteurs qui sont des auteurs qui possèdent en eux la volonté d'accrocher le lecteur. Et ça m'a toujours plu que ça soit une adresse. C'est-à-dire que c'est un moyen de véritable connexion avec son lecteur, de lui proposer à un moment donné un sourire commun. Et on voit que le travail de l'auteur, ici justement, est un travail qui permet au lecteur d'être rentré complètement dans le texte et de sourire en même temps. J'ai retrouvé d'autres éléments comme ça qui m'ont vraiment frappé chez Diderot, par exemple, dans Jacques le Fataliste. Voilà. Dans Jacques le Fataliste, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement le côté, évidemment, parfois très amusant de la narration, mais aussi c'est l'adresse que peut avoir Diderot pour son propre lecteur, où il lui dit, par exemple, tu te demandes bien ce que je vais faire du personnage de Gousse, et tu te dis que je suis sans doute confronté à ce que Voltaire appelait une impasse. Et il se moque de Voltaire parce que Voltaire faisait à l'époque une sorte de campagne contre le mot cul-de-sac qu'il trouvait vulgaire et grossier, et il préférait qu'on dise une impasse. Et à ce moment-là, Diderot dit à son lecteur, mais tu vas voir, je vais réussir à te prouver que Gousse, ce personnage, etc. Et donc, cette dimension d'adresse, qui est une dimension qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire c'est une distanciation par rapport au lecteur et en même temps on lui signifie qu'il est dans un roman, ça m'a toujours beaucoup plu. C'est quelque chose d'ailleurs qui, franchement, se retrouve souvent chez Loulipien, chez Calvino, et je pense au début, par exemple, de Si pur un hiver, qui commence par « Tu viens d'entrer dans un livre d'Italo Calvino ». Donc on retrouve toujours cette adresse qui est à la fois balzacienne, Stern, enfin c'est quelque chose qui m'a toujours plu.
Il y a dans l'Anomalie un personnage d'écrivain, Victor Mizel, à propos duquel il est écrit « Mizel, qui peut sembler absent et distant, a la réputation d'un homme d'humour malgré tout. Mais un homme d'humour digne de son nom ne l'est-il pas toujours malgré tout ?» Oui. Alors je voudrais savoir ce que vous entendez par là. Est-ce que cette phrase nous dit et de vous et de votre rapport à l'humour ?
Alors c'est une phrase qui est en rapport avec un texte d'un homme qui s'appelle Otto Julius Bierbaum et qui est un écrivain allemand et qui dit à un moment donné l'humour c'est quand on rit quand même. Voilà, donc c'est le malgré tout, c'est le trotzdem allemand, c'est le quand même. Et pour moi ça correspond à une... Alors justement à l'historicité de l'humour, c'est-à-dire la manière dont l'humour apparaît dans l'histoire de la littérature à un moment assez précis qui est le début, alors les Anglais diront le début du XVIIe, les Français diront le début du XVIIIe, parce qu'on a un petit décalage sur cette notion, mais c'est ce moment-là où on voit apparaître une forme qui n'est pas les deux formes classiques qui sont la farce et la satire, et où on voit apparaître l'humour. La farce, c'est quoi ? La farce, pour nous, c'est Aristophane, c'est-à-dire que c'est le type qui, chez Aristophane, commence à arriver dans, par exemple, La République des femmes, ou qui commence par un homme qui arrive sur scène en disant que tout ce qu'il a envie, c'est d'aller chier, c'est le mot exact, c'est dans Aristophane, c'est ça. Et il n'arrive pas à trouver l'endroit où il peut se dégager de son problème intestinal, et donc tout le monde rit, c'est la farce. Voilà, puis la satire, c'est tout le monde connaît, c'est Molière, c'est Tartuffe, c'est le misanthrope. Et puis arrive avec le 17e, le 18e, une forme qui est un peu nouvelle, dans laquelle le lecteur, l'auteur, commence à s'inclure dans une sorte de... Enfin, on est dans le même portrait, on est dans la situation elle-même. Donc on n'a plus le rire cruel, qui est un rire dans lequel on se moque de l'autre, dans lequel on se moque de la situation... On est dans un rire qui est un rire où on s'insère dans un portrait de la société qui est un portrait un petit peu doucâtre où on voit qu'on en fait partie et que donc, quand on rit quand même. C'est-à-dire, voilà. Et cette notion du quand même m'intéresse parce qu'elle est nouvelle à partir du 19e et qu'on la trouve dans des dizaines de situations. Puis c'est aussi le fait que d'un seul coup, on est dans un monde où on réfléchit de manière très distanciée. Je pense à l'exemple que donne Freud dans le mot d'esprit. Alors, c'est un exemple connu, mais il est assez révélateur de ce que c'est que quand même. C'est l'histoire du condamné à mort qui se réveille, on le réveille le matin, on lui dit c'est l'heure. Il se lève, on est un lundi, et il se cogne au chambranle de la porte, il hurle de douleur, et il fait à ce moment-là, alors qu'il va à l'échafaud, il dit la semaine commence mal. Voilà. C'est cette idée qu'on est dans une distance et simultanément qu'on est parti du portrait. Quoi. J'aime bien ça. C'est ce quand même. C'est le malgré tout.
Alors, Misel, ça serait malgré quoi ?
Misel, c'est un homme qui n'a pas connu le succès, qui s'est un petit peu éloigné des questions justement de la gloire, de la célébrité, et qui vit cette absence de gloire et de célébrité de manière assez sereine, une sorte de résignation qui est une résignation plutôt sage. Et il appartient justement à ce genre de personnes pour qui l'humour s'est transformé en intelligence de l'émotion. Parce que c'est ça, en fait, l'humour, c'est transformer de l'intelligence en émotion. Enfin, pardon, transformer de l'émotion en intelligence. Et transformer le monde, qui est un monde où on peut souffrir, en un monde dont on peut un peu se moquer. Voilà. Ensuite, je ne voudrais pas tout le temps citer, mais parce que j'ai quand même, à un moment donné, beaucoup réfléchi sur ces questions de l'humour. Et j'avais trouvé une phrase de Horace Walpole qui parlait de cette différence entre les gens qui... enfin, entre la souffrance, justement, et voilà, entre la souffrance et la réflexion, et qui disait que Démocrite riait alors que Héraclite pleurait. Parce que finalement, ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent rient, alors que ceux qui sentent souffrent. Et l'idée, justement, de l'humour, c'est de passer d'un monde dans lequel on sent à un monde dans lequel on réfléchit. Et en passant de ce monde qui est un monde dans lequel on pense, de ce monde dans lequel on souffre, à un monde dans lequel auquel on pense, on passe d'un niveau qui est un niveau de douleur à un niveau de réflexion. Et c'est ce qui sauve, finalement, l'humoriste. Et c'est ce qui sauve, finalement, l'homme qui... refuse de souffrir et qui peut-être transcende cette douleur pour le transformer en humour. Je crois que c'est exactement ça. Et Misel, c'est ça, en tout cas.
Vous avez reçu en 2013 le Grand Prix de l'humour noir pour Les Contes liquides, signé du poète portugais Jaime Monstrella, dont vous étiez exclusivement le traducteur. Enfin, c'est ainsi que c'était présenté. C'était 80 contes sur 1000 qui auraient été écrits par cet auteur. Et je cite, ce qui n'est pas mal compte tenu du fait que le traducteur ne parle pas portugais. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce livre, ce personnage d'écrivain inventé, un jeu auquel vous aimez quand même vous livrer ?
Oui, alors Montestrella, pour moi, c'était une référence d'enfant. Parce que lorsque j'avais peut-être 12, 13, 14 ans, je lisais un auteur qui est un peu disparu et qui s'appelle Jacques Sternberg. Et Sternberg, je l'ai transformé en Jacques en Jaime et Sternberg en Montestrella. Voilà, c'est une traduction en lusitanien de Sternberg. Et ce personnage était un personnage qui travaillait sur des textes courts et qui en permanence essayait de transformer le monde en aphorismes avec des contes qui étaient la représentation d'un aphorisme donné. Par exemple, le jour, alors je ne sais plus lequel c'est, le vendredi, les cannibales de l'île de Montehira ne mangent que des marins. Voilà, c'est un exemple des petits contes extrêmement courts de Montestrella. J'aimais bien cette idée d'un personnage inventé parce que ça faisait un effet miroir et j'avais dans le livre Electrico W, qui était un livre juste un tout petit peu antérieur aux contes liquides, j'avais ce personnage qui essayait de traduire en permanence les contes liquides. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les contes liquides ont plu à pas mal de gens et on m'a demandé d'écrire les contes liquides qui n'existaient évidemment pas et dont je les ai écrits. Les contes liquides faisant référence aux contes glacés de Sternberg, qui était un recueil de contes assez longs et qui était illustré par Roland Topor. Et c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Ça avait dû paraître en 72-73. Et j'aimais énormément Sternberg. Donc voilà, c'était une sorte de décalage du personnage de Sternberg.
Mais c'est donc aussi un moyen de créer des aphorismes, ouais, qui sont quand même une des grandes constantes de votre œuvre. Vous avez travaillé pendant 15 ans pour lemonde.fr, pour lequel vous livriez des textes courts chaque matin pour la newsletter, le brief, oui, du monde.fr. Mais aussi, on peut retrouver, y compris dans l'anomalie, puisque Victor Miesel est l'auteur de nombreux aphorismes. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce rapport-là que vous avez avec cette forme brève et ce qu'elle a porte dans la littérature en termes d'humour?
La forme brève, c'est quelque chose de compliqué parce que, comme disait je ne sais plus qui, c'est pas facile. La formule « j'ai pas eu le temps de faire plus court » est une formule assez juste parce que ça prend du temps de résumer en deux lignes l'actualité. Ça donnait des choses qui, parfois, étaient à la limite du mauvais goût, mais ça me plaisait. Par exemple, je me souviens que quand la statue de Sarkozy était rentrée au musée Grévin, j'avais écrit un texte qui disait « La statue de Sarkozy rentre enfin au musée Grévin. C'est exceptionnel, elle est trois quarts cire, un quart chair. » Et ce genre de travail, c'est un travail d'immédiateté. C'est-à-dire que c'est étrange à dire, mais pour donner l'impression que c'est trouvé sur un coin de table, ça prend du temps. Et tout est un peu comme ça, c'est-à-dire... pendant 15 ans, j'ai écrit peut-être 7 à 8 000 aphorismes du matin et ça me prenait beaucoup de temps, c'est-à-dire ça me prenait peut-être pour faire deux lignes une heure parce qu'il fallait épuiser toute l'actualité et à partir de l'actualité, choisir ce qui pouvait fonctionner, voir ce qui ne fonctionnait pas, comprendre qu'en deux lignes, je n'avais pas le temps d'expliquer tout ce qui se passait, que donc il fallait que je prenne quelque chose que tout le monde avait... un petit peu repéré dans l'actu pour que je n'ai pas à tout réexpliquer. Et ça forçait à aller vers la formule la plus dure et la plus rapide. Et bon, parfois j'étais content et parfois j'étais pas très content. Dans le travail du billettiste, comme dans celui du dessinateur, il y a un risque qui est celui de passer à côté de ce qu'il faudrait faire et faire quelque chose de médiocre ou faire quelque chose de moyen. C'est toujours le danger du quotidien et du billet du jour. Et puis parfois, on est content parce qu'on a trouvé un truc qui marche vraiment bien. Par exemple, je me souviens que Maurice Papon, à sa mort, avait demandé à être enterré avec sa Légion d'honneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit détail. Et j'avais écrit quelque chose du style... Je suis contre le fait qu'on enterre Maurice Papon avec sa Légion d'honneur. Je suis pour le tri sélectif des ordures. Et ça m'avait valu d'ailleurs un début de procès, à la fois pour les défenseurs de la Légion d'honneur qui disaient ce n'est pas une ordure, c'est un beau métal. Bon, c'était pas l'idée. Mais... Et puis évidemment par la famille Papon. Puis c'est tombé un peu. Voilà, j'ai pas eu de procès, donc j'étais un peu déçu. Mais voilà, on trouve parfois des choses comme ça qui fonctionnent. Et on est content. Parfois, c'est moyen.
Mais alors, même si ça peut être une souffrance quand c'est un exercice quotidien et auquel on est obligé de se livrer, mais c'est tout de même quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de goût oui. comme écrivain. Oui, oui. Donc, ça n'est pas juste une contrainte qui vous a fait souffrir pendant 15 ans, pauvre masochiste que vous êtes.
Non, mais j'ai accepté ce travail parce que ça me plaisait. C'est clair que c'est le genre de travail qu'on ne peut faire que si vraiment on aime ce genre de choses. C'est extrêmement stimulant, c'est extrêmement agréable, mais on passe toute sa journée à se dire qu'est-ce que je vais bien faire comme blague pour demain. Mais ceci dit, le travail de l'aphorisme est un travail vraiment formidable. Moi, j'ai toujours aimé des écrivains aphoristiques, mais Nietzsche, par exemple, est un formidable créateur d'aphorismes. Oscar Wilde, enfin, on peut tous les énumérer. Jules Renard, Alphonse Allais, enfin, ce sont des gens qui travaillent sur la forme courte et c'est une forme difficile parce que lorsqu'on publie, par exemple, un recueil de formes courtes, il y a toujours des gens qui ne sont jamais les mêmes enfin, et qui vous disent ça, j'aime pas tellement. Mais c'est jamais la même chose. Donc en fait, quand on fait un roman, les gens ont une vision globale du roman. Et lorsqu'on fait des formes courtes, on prend le risque de décevoir plein de gens avec plein de formes courtes différentes qui leur ont pas plu. Donc en fait, on déçoit beaucoup plus de gens avec la forme courte. Mais bon, j'ai toujours adoré ça. Je me souviens, par exemple, de Félix Fénéon. Et des nouvelles en trois lignes.
Donc, Félix Fénéon,
qui est un auteur, un auteur journaliste anarchiste du début du XXe, j'ai amené un Félix Fénéon. J'ai amené un Félix Fénéon et après
qui était affecté aux faits divers et qui s'était fait une spécialité extraordinaire de résumer un fait divers en trois lignes et
absolument.
Même généralement moins dans le
et
genre compression.
Moins. Et donc, voilà, il y a toujours des idées très fortes. Par exemple, Catherine Rosello de Toulon, mère de 4 enfants, voulut éviter un train de marchandises, un train de voyageurs l'écrasa. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours adoré ce genre de forme. Je me souviens que un autre auteur, qui est un auteur de petites nouvelles, qui s'appelle Philippe Cousin, avait fait une petite nouvelle en trois lignes en hommage à Félix Fénéon. Ça devait être quelque chose du style « Félicien Martinet, couvreur, tomba malheureusement du toit. Par chance, un tas de briques arrêta sa chute. » C'est-à-dire qu'il se passe un petit temps où on voit que non, ce n'est pas possible. Un tas de briques n'est pas quelque chose qui arrête... Heureusement, une chute. C'est horrible, en fait. Mais il y a quelque chose qui est, justement, dans le travail de la forme très courte comme ça, une adresse au lecteur. On lui demande quelque chose. C'est exigeant vis-à-vis du lecteur. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on est dans une coopération. On n'est pas simplement c'est exigeant. Voilà. J'aime bien cette idée qu'à un moment donné, on demande quelque chose au lecteur. C'est une complicité. Ça ne marche pas tout le temps. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Il faut un niveau de connivence qui, parfois, ne fonctionne pas. Quoi. Mais parfois, ça marche.
Donc dans le cas des comptes liquides, c'était des aphorismes qui étaient censés avoir été traduits. Et ça pose une question intéressante, qui est celui de ce qui reste de l'humour dans de la traduction. Donc même si là, c'était une traduction qui passait par vous et que c'était un peu plus compliqué que ça. Mais nous ne sommes pas faits que de littérature française les uns et les autres. Et donc, en termes de... Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup,
oui.
La question de la traduction
alors,
de l'humour.
Justement, les comptes liquides obéissaient à cette règle absolue qui ne faisait jamais appel... à un jeu de mots. Jamais la langue en tant que telle n'intervenait. Autant je pouvais, évidemment, dans mon histoire de trois quarts cire, un quart cher, faire appel à de l'humour qui est lié à la phonétique, à l'orthographe. Autant dans les comptes liquides, je ne travaillais que sur de la situation, que sur des choses traduisibles. Et même, je me posais la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, si je le traduisais, ça rendrait le même effet ? Donc c'est un travail assez différent, parce que là, on s'élimine toute une série d'options qui sont des options possibles. Mais c'est intéressant aussi, parce que là, on est dans une forme dans laquelle la traductibilité est totale. Mais parfois, c'est absolument impossible. Il y a des centaines d'exemples. Je me souviens d'avoir vu un jour un dessin merveilleux. Je crois que c'est... On voit Wittgenstein. Il y a d'un côté Wittgenstein, c'est une sorte de gravure. Il y a Wittgenstein à côté de la gravure, et de l'autre côté, il y a Emmanuel Kant. Et Wittgenstein dit à Kant, il le dit en anglais, « Make a pun about yourself », fais une blague à propos de toi. Et Emmanuel Kant répond « Kant ». Donc, je ne peux pas à Kant. Voilà. Et ça, comment est-ce qu'on peut traduire ça ? Je ne sais pas. Voilà, il y a toute une série de choses qui est « lost in translation ». Et c'est un vrai problème. Mais de toute façon, dans la traduction, il y a ce problème inhérent qu'on perd... Si on traduit une poésie, on perd le rythme, ou on perd la rime, ou on perd le sens. Et parfois, on perd les trois. Mais cette perte, elle fait partie du travail du traducteur. Le traducteur doit toujours, en permanence, essayer de se poser la question, non pas de... Enfin, il doit se poser la question de ce qu'a voulu dire l'auteur, mais il ne faut pas qu'il traduise le sens, il faut qu'il traduise ce qu'a voulu atteindre l'auteur, se situer toujours dans la flèche de ce qu'a voulu dire l'auteur, et pas dans le texte qu'a voulu dire l'auteur. Et dans la traduction de l'humour, il y a ça, il y a des vraies difficultés, évidemment. D'ailleurs, quand on voit les traductions de tous les textes humoristiques, on voit bien le problème que ça représente. Si on traduit... je me souviens d'avoir examiné avec attention les traductions du roman de Queneau, Les fleurs bleues, en anglais... C'est quasiment impossible. Voilà, parce que le jeu de mots comme 2-1, par exemple, enfin, le début des fleurs bleues, c'est toute une série de jeux avec la langue, et dans lesquels, évidemment, il y a des peuplades qui viennent de toutes les régions du monde. Mais les 1 qui sont au nombre de 2, je ne vois pas comment on peut traduire ça en anglais. Donc il y a toute une série de situations comme ça dans lesquelles le traducteur s'arrache les cheveux. Et après, ce qui est intéressant pour un traducteur, c'est aussi de restituer ce genre d'humour à travers un déplacement. Et c'est ce déplacement qui fait que c'est un bon traducteur.
Vous, vous êtes beaucoup traduit ?
Je suis pas mal traduit. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, que j'ai dû réécrire des livres complets. Enfin, la carte d'un livre en particulier qui s'appelle « Les amnésiques n'ont vécu d'inoubliable » est un livre qui est un livre de 1000 pensées. Donc 1000 pensées, ça veut dire qu'il y a 1000 petits textes. Et dans ces 1000 petits textes, je me souviens que mon traducteur grec, qui a été le premier à traduire, m'a renvoyé le texte en me disant « il y en a 250 que je n'arrive pas à traduire ». Soit c'est pour des raisons culturelles, parce que les gens ne connaissent pas, soit c'est pour des raisons qui sont directement liées à l'usage du français dans le texte. Par exemple, comme à chaque fois c'est « à quoi tu penses ?»,« je pense que ». Et une des questions était, par exemple, donc « à quoi tu penses ?»,« je pense que non, chérie, Athos, Porthos et Aramis ne sont pas des îles grecques ». Alors, ce n'est pas de très bon goût, mais pour un grec, ça ne fait pas du tout rire. Donc, le traducteur m'a dit « excuse-moi, mais il faut que tu m'en fasses d'autres ». Pour celle-là, donc je voulais rester sur 1000 pensées, donc j'ai dû en réécrire pas mal. Il y en avait une autre, c'était à quoi tu penses ? Je pense que les Q majuscules ont une petite, ont une longue, les Q majuscules ont une petite queue, alors que les Q minuscules en ont une grande. Ce qui n'est pas de très bon goût non plus. Mais en grec, ça ne marche plus du tout. Alors là, c'est une blague triple qui disparaît complètement. Résultat, c'est que un jour. Le livre a quand même fini par être traduit. Et quelqu'un, je suis donc allé en Grèce pour une autre occasion, et une lectrice est venue me voir en disant « J'aime beaucoup vos champignons ». Et je ne voyais pas du tout de quoi elle me parlait. J'ai alors compris que le livre avait été traduit sous le titre « Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement ». Et ce n'est pas du tout « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable ». Donc il y a un vrai problème de traduction. J'ai un autre titre comme ça qui s'appelle « Je m'attache très facilement », qui fait référence à quelqu'un qui non seulement s'attache, à, qui est une phrase en fait qui est extraite du testament d'Émile Ajar. Et dans cette phrase, il y a une ambiguïté parce qu'en plus, il l'utilise pour dire qu'il s'attache dans la voiture avec sa ceinture de sécurité. Et c'est impossible à traduire « Je m'attache très facilement ». Donc le titre anglais, c'est tout à fait autre chose, c'est l'intervention d'un homme bon, donc ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est évidemment ça tout le temps, je compte jusqu'à 100, comment traduire ça en anglais ? C'est pas possible. Donc c'est compliqué, voilà. La traduction est un art compliqué. Avec l'anomalie, ça devrait aller, c'est simple. Mais la plupart de mes titres sont parfois des jeux de mots, et je me rends compte que, en tout cas, ces titres sur des formes courtes sont souvent des jeux de mots, c'est pas si simple.
Et vous ne le pensiez pas comme un piège à l'égard de qui que ce soit au départ ?
Non. En plus, très sincèrement, les écrivains ne réfléchissent absolument pas aux difficultés que pose leur texte à un traducteur. On n'y pense jamais. Il faut vraiment. On découvre à quel point parfois c'est compliqué et à quel point on est dans sa propre langue et à quel point on ne se rend pas compte du fait qu'on fait des jeux de mots sans le savoir et qu'on fait de l'humour qui est essentiellement linguistique et qu'on donne ça à un traducteur qui s'arrache les cheveux ensuite en se disant mais qu'est-ce que tu as voulu dire là ? Je me souviens d'avoir écrit un texte dans lequel la personne s'émerveillait d'être dans la nature entourée de mouettes et de chardons et il se disait je ferais bien une chanson à Alain Souchon qui s'appellerait Mouettes et chardons. Et évidemment, dans le texte, en français, ça fait sourire. Mais quand le traducteur voit ça arriver, il vous engueule et il vous dit « Bon, bah merci, je ne sais pas comment traduire ceci ». Et c'est tout le temps comme ça. Donc, le fait d'écrire est toujours un fait d'écrire dans une langue donnée. Et cette langue, elle a des caractéristiques, elle a une certaine souplesse. Mais parfois, l'auteur, assez spontanément, crée des liens dans la langue qui sont intraduisibles. C'est très bien pour le lecteur de la langue originelle et pour le traducteur, c'est un enfer. Et puis, s'il arrive à restituer la chose, c'est formidable.
Alors, quand vous écrivez dans votre langue, au départ, voilà, pour vous, est-ce qu'il vous arrive de rire pendant que vous écrivez, quand vous trouvez une image, une
formule ? De sourire. Oui, mais ça, hélas, parfois, on est complaisant. Non, c'est vrai, parfois, on se dit « Ah, oh, pas mal, on est content ». Et oui, ça m'arrive de sourire. Ça m'arrive surtout de sourire en me disant que là, j'ai bien lu le lecteur, voilà, que je l'emmène vers un point où peut-être il va voir. Il m'arrive de sourire lorsque je trouve assez naturellement ce qu'on appelle un œuf de Pâques, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le corpus commun de notre culture et qu'on va décaler pour faire autre chose. Dans l'anomalie, pour un chapitre qui parle d'un vol d'avion, j'ai décalé le début d'Anna Karénine et ça donne tous les vols sereins se ressemblent, chaque vol turbulent l'est à sa façon. Donc quand on commence comme ça, on n'est pas très fier parce que c'est pas extraordinaire, mais en revanche on a un petit sourire, on se dit tiens, c'est une bonne façon de commencer un chapitre parce que on est orienté d'abord ça donne un assez bon incipit de chapitre et puis après on est orienté dans une voie presque des rails dans lesquels on va rester. C'est aussi ça important, c'est la théorie des commencements, c'est aussi ça en littérature, c'est que trouver les premières phrases permet d'orienter le texte dans une direction donnée. Et lorsque le but est justement de faire sourire le lecteur et de l'orienter vers un chapitre qui sera coloré par l'humour, on a envie de le colorer tout de suite. Comme ça, on a déjà posé les jalons d'un rapport de connivence entre lui et vous.
Dans l'anomalie, justement, il y a beaucoup de citations visibles ou non visibles, de décalage de texte, puisque à ceux qui vous ont posé la question des contraintes que vous aviez pu vous donner, vous avez expliqué que, en hommage à Si par une nuit d'hiver de Calvino, vous aviez décidé de décaler plusieurs incipits de livres et de les glisser dans votre propre roman.
Oui.
Est-ce que, voilà, à quel point la référence fait partie de l'humour que vous injectez à vos textes ?
Ouais. Moi j'ai du mal à me séparer de mes propres références. Je suis quelqu'un...
Il faut voir ce que vous avez apporté sur la table.
Oui, voilà, non mais forcément. Donc je suis quelqu'un sous influence. Mais ça ne me dérange pas d'être un auteur sous influence, parce que je pense que d'une certaine manière, on ne peut pas écrire si on n'a pas lu. Bon, après... La question est de savoir si on fait la même chose que les autres ou si on fait quelque chose qui nous appartient à nous. Ça ne me dérange pas. Moi, je repense toujours à la phrase, je ne sais plus qui avait dit ça, quelqu'un qui reprochait à Simenon... oui, je crois que c'est Vialat qui défendait Simenon en disant « On dit toujours que Simenon écrit comme tout le monde. » Oui, mais d'accord, mais il est le seul. Et cette phrase est formidable parce que, en fait, elle dit quelque chose du style... On peut dire tout ce qu'on veut de Simenon, c'est un auteur extraordinaire. Et oui, il écrit comme tout le monde, mais la phrase de Vialat, mais il est le seul, est quand même géniale. Et Vialat aussi écrit comme tout le monde, mais aussi il est le seul. Ils sont plusieurs à être seuls à écrire comme tout le monde. Et moi, c'est quelque chose que j'admire énormément, c'est cette capacité qu'ont les auteurs d'imprimer leur style en utilisant une langue qui est notre langue commune, c'est-à-dire sans essayer à un quelconque instant de s'éloigner... de ce qui nous est propre à tous, de ne pas essayer de créer une langue à soi. Ils sont dans la langue de tous, et avec la langue de tous, ils créent une œuvre. Donc moi, ça ne me dérange pas de reprendre des textes et de les décaler pour me les faire, pour les faire miens. Parce qu'au bout d'un moment, je les ai tellement décalés que c'est quand même mes textes à moi, même si je sais d'où je suis parti. Et c'est vrai que dans l'anomalie, j'avais comme principe... de prendre des textes de mes bibliothèques, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des textes de livres que j'aime, mais qui sont pour partie des livres que j'aime, puisqu'il y a le début de La promesse de l'aube, qui est un livre que j'adore, mais il y a des textes qui sont des textes plus anodins, mais dont le premier chapitre m'intéressait, ou le premier paragraphe m'intéressait. J'ai pris le premier paragraphe, et puis je l'ai totalement déplacé, mais il me donnait une sorte d'énergie, une sorte de starting block de départ, qui me permettait d'avancer assez rapidement. Ça... Mais cette avancée rapide, en fait, était compensée par le fait que je devais tout réécrire. Donc, ouais, ça me ralentissait. Donc, je ne suis pas allé plus vite avec ce système, mais c'était une démarche que j'aimais bien. Souvent, à l'Oulipo, il faut comprendre la contrainte, non pas comme un outil, mais comme un principe. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'accélère pas. Pérec n'est pas allé plus vite parce qu'il écrivait sans E. C'est allé beaucoup plus lentement.
Pour la disparition.
Oui, pour la disparition de Pérec. Mais en revanche, c'est un principe parce qu'une partie du moment où on s'impose de s'appliquer telle ou telle règle, on a des chemins de traverse qu'on emprunte de fait, auxquels on n'aurait pas pensé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de l'usage de la contrainte. l'usage de la contrainte, c'est pas un procédé, c'est pas une procédure, c'est vraiment un système de pensée dans lequel on s'inscrit, à partir duquel on crée des œuvres. Œuvres d'ailleurs qui sont, peuvent être moyennes ou médiocres. Hein, la contrainte ne crée pas la qualité. Hein. Il ne faudrait pas croire ça. Il y a eu des centaines et des milliers de mauvais sonnets. Hein. Bon, certains ont traversé les siècles, d'autres pas. Quoi. La contrainte ne crée pas la qualité, mais néanmoins, elle donne parfois des impulsions et des chemins, une fois de plus, des chemins de chèvre, hein, souvent, qui ne sont pas des chemins très très larges, ce n'est pas des voies romaines, hein, mais qui nous permettent d'arriver à des fictions qu'on n'aurait sans doute pas créées sans la contrainte. Et c'est moi ce que je cherche dans la contrainte.
La contrainte qu'on peut aussi désigner comme un jeu, enfin, on parle beaucoup des jeux de l'Oulipo, est-ce que ces jeux ont forcément à voir avec quelque chose qui aurait trait à l'humour, à une forme de drôlerie à destination interne ou externe?
Alors oui et non. Dans certains cas, l'humour est le moyen le plus court pour aller vers quelqu'un, c'est-à-dire que parfois ça peut être utile d'utiliser l'humour, mais il y a des textes sous contrainte qui sont des textes très puissants, et qui n'ont strictement rien à voir avec l'humour, qui peuvent être des textes de deuil. Si vous prenez les contemplations de Victor Hugo, c'est sous contrainte, hein, les contemplations. Il y a de la rime, il y a du rythme. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une partie de rigolade. Or, c'est des textes à contrainte. Donc, la contrainte ne doit pas être uniquement ramenée au jeu. Et en plus, dans la notion de jeu, il y a deux notions simultanées qui sont à la fois le game, qui est le jeu ordonné, le jeu d'échecs, et le play, qui est la cour de récréation et la valo priso. Nous, on est plutôt du côté du game, plutôt du côté de la démarche qui consiste à prendre un damier, prendre un échiquier, et essayer de voir comment se déplace un cavalier et qu'est-ce qu'on en fait, ou un jeu de domino, comme j'ai pu le faire, plutôt que dans la démarche simplement de la cour de récréation. On n'est pas dans cet univers-là. Donc le jeu est un mot qui est ambigu. On est plutôt dans cette idée que ce sont des structures, que ce sont des consignes qu'on peut se donner, des règles qu'on s'impose, plutôt que du jeu pur. Et encore, dans les règles qu'on s'impose, on a toujours cette notion à l'Oulipo qui est forte, qui est celle du clinamen, qui est le petit écart par rapport à la règle qu'on peut s'autoriser. Et on s'autorise uniquement si on sait qu'on pourrait respecter la règle. Donc on sait qu'on peut respecter la règle, mais on s'en écarte. Ce n'est pas tout à fait tricher. C'est-à-dire, la tricherie consisterait à dire « non, j'y arrive pas, et donc je vais faire autrement ». Non, là c'est « je pourrais, mais je ne vais pas le faire ». Donc c'est quand même quelque chose de très dominé. C'est une règle sur la règle, quoi. Possibilité de changer.
Oui, mais ne serait-ce que là, dans ce que vous expliquez sur la règle qu'on peut contourner uniquement si on est capable de l'appliquer, il y a une forme d'humour dans le rapport aux règles et même juste un état d'esprit commun assez amusé, amusant, parfois rigolard, qui est assez propre à l'Oulipo.
L'humour, c'est un état d'esprit. L'humour, c'est un rapport au monde. C'est avant tout ça. C'est un rapport dans lequel... rien n'est vraiment sérieux. C'est la recherche d'éviter l'esprit de sérieux. Enfin, cette notion de... Voilà. Mais il y a aussi dans cette idée de l'écart, puisque c'est un écart, c'est aussi la volonté de créer du sens à partir de cet écart, systématiquement.
Sur la prise de distance, je crois que vous avez apporté un texte de Sartre, c'est très sérieux, qui est important pour vous.
Oui, parce que Dans ce texte de Sartre, c'est un texte qui est extrait de L'être et le néant. Et c'est le texte qui parle du garçon de café et que j'aime bien parce que au fond, il parle justement de l'esprit de sérieux, en fait, d'une certaine manière. Qui est une... Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible dont ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi joue-t-il donc ? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Voilà bien des précautions pour emprisonner l'homme dans ce qu'il est. Comme si nous vivions dans la crainte perpétuelle qu'il n'y échappe, qu'il ne déborde et n'élude tout à coup sa condition. Mais c'est que, parallèlement, du dedans, le garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café au sens où cet encrier est encrier, où le verre est verre. Et ça, je trouve ça très beau parce que c'est une forme d'humour, de distanciation par rapport à la vie. On n'a pas le droit d'être ce à quoi on est assigné. Et cette assignation du monde, l'humour le refuse. C'est-à-dire que l'humour dit non, nous sommes un peu plus que ce que le monde nous assigne à être. Et c'est ce que j'aime bien dans cette idée, d'ailleurs, de Sartre, qui est cette idée du garçon de café qui joue à être un garçon de café. Au fond, le grand danger pour un écrivain, c'est de croire qu'il est écrivain. Non, mais c'est-à-dire que ça se parallélise. Et le grand danger et la force qu'a l'humour, justement, pour un écrivain, c'est que ça lui évite de croire qu'il est un écrivain. Je pense qu'un écrivain qui croit qu'il est un écrivain, il est mort. Il faut qu'à un moment donné, il y ait du doute. Il faut que la langue maternelle dans laquelle on évolue ne soit pas une langue tout à fait maternelle. Il faut que lorsqu'on travaille avec des mots, il faut que ces mots soient des mots dont on n'est pas tout à fait certain. Il faut qu'une virgule soit déplaçable à l'infini. Moi, je pense toujours à cette petite texte de Rimbaud où il met en marge « Je tiens absolument à cette virgule !» parce qu'il est placé à un endroit donné et il veut qu'elle soit là. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ben justement, dans le travail de l'écriture, il faut qu'il y ait du doute et au bout d'un moment, une certitude. Et la quête de cette certitude, même sur une virgule, elle est juste. Et ce garçon de café qui joue à être un garçon de café doit faire penser que les écrivains doivent penser qu'ils ne sont pas forcément des écrivains. Ce serait bon que les philosophes aussi adoptent les mêmes pratiques et qui pensent qu'ils ne sont pas tout le temps des philosophes. Ça leur ferait du bien.
Quand on vient de recevoir le Goncourt, est-ce que c'est difficile de ne pas jouer à l'écrivain ou de prendre suffisamment de distance avec...
Je suis un Goncourt qui fait... je suis un peu ça. C'est-à-dire, il faut toujours se dire qu'on n'a pas tout à fait eu le concours. Quelque part, je ne l'ai pas eu. Hein, c'est-à-dire,
il a été remis en distanciel, comme
non,
tout.
Je l'ai eu quand même, mais il y a une notion de... Je crois vraiment à la vertu de l'imposture. C'est-à-dire, je crois vraiment à la vertu de l'idée qu'on ne mérite pas ce qu'on a. C'est la seule chance de continuer à écrire après et à faire d'autres choses, et surtout de ne pas être pris dans la symbolique que représente un prix comme le Goncourt, qui est un prix dont je suis très heureux et fier d'avoir été couronné, mais qui doit rester quelque chose qui m'est un peu étranger, qui ne doit pas devenir ontologiquement. Il ne faut surtout pas que je me couche en me disant « je suis le Goncourt 2020 », sinon d'abord je ne dors pas, ça me remplit d'angoisse, et puis ça me déplace sur un terrain qui n'est pas le mien, qui n'est pas mon terrain de jeu. Il faut que l'écrivain conserve son terrain de jeu, qui est son art, et qui est d'une certaine manière sa dignité. Et d'une certaine manière, rester digne consiste penser de manière perpétuelle qu'on a toujours des choses à se prouver à soi et qu'on n'est jamais certain de ce qu'on a écrit. Et fondamentalement, moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. Et c'est pour ça que je n'écris jamais le même livre. C'est parce que dès que j'ai épuisé une forme, que je peux parfois avoir empruntée à quelqu'un en plus. C'est-à-dire que je n'hésite jamais à refaire des choses que des gens ont fait avant. Mais une fois que je l'ai fait, moi, je n'y reviens plus. Mais à l'Oulipo, il y a quelque chose qui est justement très fécond, qui est l'idée qu'on peut faire pareil. On a le droit de faire pareil. Et ça, c'est important parce que justement, ça ramène à cette idée qu'on ne fait jamais de toute façon pareil. On n'est jamais... on a ses propres chaussures, on a ses propres vêtements, on a son propre stylo et on n'écrit pas la même chose, même si on décide de faire pareil. J'ai écrit je suis très admiratif d'un livre de Calvino. Je suis très admiratif de tous les livres de Calvino, mais en particulier d'un qui s'appelle « Les villes invisibles ». Et lorsqu'on rend un hommage aux villes invisibles de Calvino, on ne peut pas faire pareil. De toute façon, on ne peut pas se situer exactement dans les pas de Calvino. Parce que justement, des chaussures plus petites ou des raquettes, on n'est pas exactement au même endroit. Donc on ne peut pas faire pareil. Mais en se fixant l'objectif qui est de raconter des villes imaginaires, on arrive à créer quelque chose qui est autonome, qui nous appartient et qui obéit néanmoins à des principes que lui s'est fixés. Et chaque Oulipien, d'ailleurs, parfois, travaille sur le même thème. Il nous arrive de partir d'un travail d'un individu et de le décaler, de le décalquer, de le faire bouger, de le faire aller ailleurs. Et je pense en particulier à un livre collectif qui s'appelle « Cette amitié d'homme », dans lequel on part d'un texte unique, qui est un texte de Paul Fournel, qui est notre ancien président. Notre précédent président de l'Oulipo. Et qui est un texte extrait d'un recueil qui s'appelle « Les attelles dans leur tête », qui est un très beau texte, qui avait été joué d'ailleurs par André Dussolier, et qui commence par une nouvelle qui s'appelle « Le descendeur ». Et cette nouvelle qui s'appelle « Le descendeur » commence par « Mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas, à descendre le plus vite possible. D'abord parce que lorsqu'il est en haut, l'homme a envie de descendre en bas. Ensuite, parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes en haut, ils veulent tous descendre en bas plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis descendeur. » Voilà, ça c'est, je connais par cœur, donc c'est le début de la nouvelle. On voit bien que la structure est très forte, que c'est, et que le jeu qu'on pourrait faire avec ça consisterait à le décaler. Et j'avais commencé, pour une conférence que je devais faire sur la nouvelle chez Paul Fournel, j'avais eu l'idée que la structure sémantique était tellement forte chez Paul qu'on pouvait décaler ce texte. Et j'avais donc écrit un premier texte qui était « Mon art consiste à séduire les femmes au cours d'une soirée, à séduire le plus vite possible. D'abord parce que lorsqu'il y a une femme dans une soirée, l'homme a envie de la séduire. Ensuite parce que lorsqu'il y a une seule femme et plusieurs hommes dans une soirée, ils veulent tous la séduire plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis séducteur. » Donc on voit bien qu'à partir d'un texte de structuré de départ, il y avait beaucoup d'options. Yann Monk, autre membre de l'Oulipo, avait écrit un texte qui s'appelle « Mon métier consiste à descendre une bouteille au cours d'une soirée. » À la descendre le plus vite possible. D'abord parce que lorsqu'il y a une bouteille dans une soirée, tout le monde a envie de la descendre. Voilà, vous voyez le principe. Et il y en a eu des dizaines comme ça qui ont été créées. Des dizaines. Et pour moi, c'est un rapport au texte qui est un rapport d'une absolue fécondité, parce qu'on voit bien qu'à partir d'une structure qui est unique, chacun, avec ses caractéristiques, avec ses goûts, avec ses appétences, va créer un texte extrêmement différent. Et c'était ça qui était fascinant. Voilà. Et il y en a dit, sur cette amitié d'homme, ça a donné naissance à une pièce qui est une pièce de théâtre intéressante, parce que le spectateur, d'un seul coup, se trouve dans un rapport à ce qui se passe sur scène, totalement différent. Puisqu'il connaît toute la structure du texte, sa surprise, son amusement ne vient pas du tout de ce qui va se passer de neuf. Non, puisqu'il sait ce qui va se passer. Il a toute la structure en tête. Au bout de trois coups, il a compris comment ça se passait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va attendre de voir ce que l'auteur suivant a réussi à faire de ce canevas, de ce squelette, quels muscles il a mis autour, quelles sont les parties un peu grasses, voilà, quel est le personnage qu'il construit autour du nouveau squelette. Et moi, je trouve ce type de travail très, très fascinant, et c'est ce qui m'a toujours plu dans l'ouvroir, ce côté collectif et ce côté à la fois aussi ludique et fécond, justement, parce que ça, c'est incroyablement fécond de travailler comme ça.
Alors, dernière question, avant qu'on passe à celles qui sont posées sur le site de la BPI et sur le Facebook, je crois. Est-ce que vous considérez qu'en matière de littérature, comme dans le reste, l'humour soit historiquement situé, historiquement ancré, et corrélativement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il vous semble désormais impossible de faire de l'humour, et est-ce que vous pratiquez l'autocensure? Ça fait beaucoup de questions, pardon.
Oui, oui, situé, je pense que l'humour en tant que tel se passe à un moment où... le déplacement, c'est ce que je disais, c'est 17e, 18e siècle en Angleterre et en France. Je pense donc que c'est situé. Est-ce qu'on fait de l'autocensure? Quand je travaillais, donc, pour reprendre cet exemple du monde, quand j'y travaillais, j'essayais toujours de faire sourire mon lecteur et de ne pas imposer mon opinion. J'aurais fait du dessin de presse, j'aurais été sans doute un peu différent parce que le travail est beaucoup plus bref encore dans le dessin de presse que dans le billet. J'espère qu'on peut continuer à écrire des textes comme Romain Gary avec, par exemple, La danse de Gengis Khan, parce que c'est pas possible de... Si on ne peut pas rire de tout, on ne peut plus rire du tout. Quoi. Il y a ce problème-là vraiment. Quoi.
Alors juste pour situer la danse de Gengis Khan...
Gengis Khan, c'est l'histoire d'un comique juif qui s'appelle Moïse Khan et qui officie dans le monde du comique sous le nom de Gengis Khan et qui durant la Shoah par balle, se fait assassiner par un officier nazi qui s'appelle Schatz, ou je ne sais plus comment. Je crois que c'est Schatz. Je crois bien que c'est Schatz, parce que ça serait encore plus de l'humour, parce que ça veut dire trésor. Et Mein Schatz, c'est mon petit trésor. Donc ça serait une ironie, mais je crois que c'est le cas. Et donc, je vais retrouver ce texte, parce que je l'ai quand même amené, parce qu'il me faisait trop rire. Et je pense qu'on est à la limite de ce que pouvait faire Romain Gary comme humour de très mauvais goût. Mon nom est Cohn, Gengis Cohn. Naturellement, Gengis est un pseudonyme. Mon vrai prénom est Moïché, mais Gengis allait mieux avec mon genre de drôlerie. Je suis un comique juif et j'étais très connu jadis dans les cabarets yiddish. D'abord au Schwarze Schicksal de Berlin, ensuite au Mokhtoganef de Varsovie et enfin à Auschwitz. Donc, c'est d'une violence absolument incroyable. Donc, il faut pouvoir écrire ça. Voilà, j'espère qu'on peut encore écrire des choses comme ça et qu'on peut avoir une complicité avec le lecteur. Ce qui existe, c'est un second degré. Ça veut dire que le lecteur sait où se trouve l'auteur et qu'il ne peut pas le soupçonner une seule seconde de mauvais goût, oui, mais d'antisémitisme ou de moquerie vis-à-vis des Juifs, ça ne peut pas être le cas de Romain Gary, Romain Kassev, etc. Donc, il faut pouvoir écrire ça. Est-ce que moi, je fais de l'autocensure ? Je ne crois pas en faire, hein, parce qu'en fait, si je sens que ça peut choquer violemment des gens, ça me fait plus rire. Donc, moi, ça m'arrête. Mais j'essaie de trouver toujours le moyen de faire rire, y compris ceux que ça pourrait choquer. Donc, c'est un peu différent. C'est-à-dire, j'essaye pas d'être dans l'offensif. J'essaye, ou dans l'offense, en tout cas. Mais j'essaye d'être dans une dimension de l'humour qui peut être... qui peut ne blesser personne. Mais en même temps, je ne peux pas garantir à un quelconque instant que quelqu'un qui décide d'être blessé par moi ne va pas l'être. Ce n'est pas possible d'imaginer à quel point parfois les gens deviennent totalement paranoïaques et finissent par oublier ce que c'est qu'un dictionnaire.
Donc on va prendre les questions qui ont été envoyées, si vous voulez bien.
Alors, on a une question de Nestor. Alors, qui vous remercie pour le livre Contes liquides, qu'il a beaucoup apprécié, et qui voulait rapprocher cette tradition de l'invention de l'auteur, de Borges, et voilà, et vous demande de réagir peut-être au rapprochement entre Borges et Loulipo.
Alors, moi, pour moi, Borges, c'est un auteur qui est un auteur comique. C'est-à-dire que c'est extrêmement drôle, Borges. Il y a un rapport. Au réel, qui est un rapport de décalage total. Et pour moi, j'ai un texte qui est clairement un texte qui est borgésien, qui s'appelle « Moi et François Mitterrand ». Pour moi, c'est un texte borgésien dans le sens où Borges, dans un livre qui s'appelle, dans une nouvelle qui s'appelle « Le Ménard », raconte l'histoire de Pierre Ménard, qui est un homme qui va recopier mot à mot le Quichotte de Cervantes. Il le recopie donc mot à mot, et Et Borges écrit donc une nouvelle où il va expliquer les différences entre le Quichotte de Cervantes et le Quichotte de Ménard. Il publie ça en 47, je crois, dans la revue Sur, qui est une revue sud-américaine d'analyse littéraire. Il ne dit pas du tout que c'est une blague. Donc il fait croire à tout le monde que ce texte existe vraiment. Il va falloir plusieurs mois pour qu'on se rende compte que c'est une immense plaisanterie. Et il développe une idée qui est très, très puissante et très maligne, qui est que face à un texte qui est exactement semblable, un lecteur peut avoir une réaction différente selon l'époque à laquelle ce texte est écrit. Et évidemment, il va comparer à un moment donné les deux textes, le Cervantes et le Ménard, alors que c'est exactement les mêmes phrases, en prenant des arguments, en disant « oui, mais on ne peut absolument plus écrire ça en 1920, parce qu'en 1920, le rapport qu'on a à l'histoire a bougé considérablement par rapport à l'époque de Cervantes, et donc le 17e n'est absolument pas le 20e, et donc on ne peut pas comprendre comment Ménard peut oser écrire une chose pareille. » Voilà. Et ça, pour moi, cette esthétique de la réception, je l'ai utilisée dans « Moi et François Mitterrand », puisque c'est l'histoire d'un type qui s'adresse en permanence à François Mitterrand, qui reçoit la lettre type à chaque fois, qui à chaque fois, à la lecture de cette lettre type, qui dit toujours la même chose, qui dit « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre du temps. Ne doutez pas, cher monsieur, que nos services, etc. etc. Veuillez recevoir l'obligeance, etc. » Et en recevant cette lettre, à chaque fois, il pense que c'est pour lui. Et à un moment donné, il reçoit deux lettres, une lettre de François Mitterrand et une lettre qu'il a adressée à Chirac, qui est également une lettre type. Et il met les deux lettres côte à côte, la lettre de Chirac et la lettre de Mitterrand, qui sont les deux mêmes. Et il les compare. Et sa première phrase, c'est à ce moment-là, vous êtes exactement comme moi et vous vous dites, en comparant ces deux lettres, n'est pas François Mitterrand qui veut. Et pour moi, c'est borgésien. C'est-à-dire que c'est l'humour de Borges. C'est un humour qui toujours s'empare du lecteur pour l'emmener dans un tourbillon. Et qui est un tourbillon à la fois d'érudition, à la fois un tourbillon de connaissances, mais en même temps un tourbillon de référents. Et Borges est quand même l'homme qui a dit la phrase la plus intéressante de réflexion sur la littérature et qui amène chez nous à la notion de plagiat par anticipation, qui est l'idée que tout écrivain crée ses propres prédécesseurs. Et ça, c'est une idée d'une puissance folle, parce que c'est vrai que d'un seul coup, on réfléchit à l'histoire de la littérature autrement. L'idée qu'un écrivain de 1950 crée les prédécesseurs d'antérieurs. Je pense à c'est Stendhal qui disait « Je souhaiterais être lu en 1648 à la fin d'un de ses livres ». C'est un petit peu ça, c'est cette idée qu'on arrive dans une chaîne et que personne n'a lu votre propre livre, voici deux siècles. Donc cette idée borgésienne est assez forte, oui. C'est vrai que c'est assez lié. On est plus cortazarien, peut-être, que borgésien, mais quand même.
Ça rassure, sud-américain.
Oui, dans l'Amérique du Sud, c'est plutôt Cortazar que Borges, mais tout de même.
Alors, on a une autre remarque de Georges qui pose la question, donc vous en avez parlé brièvement pour l'adaptation du métier d'homme, de l'écriture théâtrale et donc de l'humour, de la transposition du texte au théâtre.
Oui, alors il y a une chose qui est spécifique à l'Oulipo, c'est qu'il y a un théâtre oulipien, il y a un théâtre qui joue avec la notion du théâtre lui-même. Et l'un des spécialistes de ça à l'Oulipo, je crois que c'est Jacques Jouet. Jacques Jouet qui a une inventivité par rapport à ce qu'il appelle le théâtre, qui fait qu'il a toujours une réflexion par rapport au méta du théâtre dans le théâtre. Donc cette réflexion oulipienne sur le théâtre, elle part du principe que le lieu de la scène est un lieu qui peut être partagé. Par exemple, des pièces qui ne sont pas forcément oulipiennes, comme Lapin chasseur, qui est une pièce des chiens, qui, si vous vous souvenez bien, se jouait en... Il y avait une partie cuisine et puis il y avait une partie salle. Et le spectateur devait changer de côté et la pièce était jouée deux fois. Ça, c'est un truc très oulipien. On est très orienté dans cette direction-là de réfléchir à ce que le théâtre peut proposer de mode de réflexion sur ce qu'il est lui-même. Il y a aussi une pièce de Jacques Jouet et d'Olivier Salon qui est une séparation en deux de la pièce. Il y a un personnage central qui dit les mêmes répliques pour deux pièces qui se jouent simultanément. Et donc, si vous êtes d'un côté de la pièce, de la salle, vous voyez une pièce, et si vous êtes de l'autre côté de la place, vous voyez une autre pièce, mais le personnage central dit les mêmes répliques pour les deux pièces. Et elles n'ont pas le même sens dans les deux pièces. Et ça, c'est une construction formidable. Ça reprend un petit peu l'idée de c'est un métier d'homme et de qu'est-ce qu'on fait avec un squelette. Là, le squelette, il est constitué par une pièce centrale, vertébrale, qui est ce personnage unique qui va dire... deux choses simultanées, mais qui n'ont pas le même sens dans les deux cas de pièces. Donc voilà, il y a ce travail de réflexion sur la structure du théâtre elle-même qui nous intéresse beaucoup.
Et peut-être une dernière ?
Une dernière question sur l'adaptation, par exemple, cinématographique. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez été confronté ?
J'ai été beaucoup confronté à l'adaptation théâtrale. Et personnellement, je trouve que dans l'adaptation, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est qu'on abandonne son texte et que d'autres en font une œuvre autonome qui ne raconte pas tout à fait la même chose que ce que vous avez vous-même voulu dire, surtout quand vous n'avez pas écrit du théâtre en tant que tel, c'est-à-dire quand vous avez écrit une pièce comme Les Amnésiques, qui ne sont que des questions, que des réponses à la question à quoi tu penses, et qu'un metteur en scène décide d'en prendre sur 1000, il en prend 150 pour construire sa pièce. Donc évidemment, il y a un nombre très important de façons de prendre 150 dans 1000. Voilà. Le calcul est simple à faire, mais je vous laisse le faire. C'est beaucoup, ça fait beaucoup. Ouais. Et de construire un ordre qui est lui-même différent de l'ordre d'apparition des répliques dans le texte. Et donc, dans cet abandon qu'on fait de son propre texte, Il y a un vrai plaisir parce qu'on voit que les acteurs amènent quelque chose, que le metteur en scène amène quelque chose et qu'on se retrouve avec une forme qui est une forme d'un autre support, qui est le support du théâtre et où quelque chose d'autre se passe. Donc moi j'aime bien l'idée de l'adaptation de manière générale, ça ne m'a jamais vraiment dérangé et au contraire ça m'a toujours enchanté de voir ce qui s'y passait. Dans l'adaptation cinématographique, il se passe quelque chose peut-être en plus qui est la puissance du montage, du décor, et puis tous les moyens qui sont mis derrière pour transformer le texte. Ça, j'en ai assez peu l'expérience. J'attends de voir. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et tous, et bonne nuit de la lecture.
Bonne nuit de la lecture.